on ne cessait de se jeter à la tête de vieux griefs. Si vous n'aviez pas canonisé Célestin, si vous n'aviez pas renié Boniface, si vous n'aviez pas consenti à partir de Rome, si vous n'aviez pas condamné les Templiers. On s'accusait mutuellement de faiblesse dans la défense de l'Église, d'ambition et de vénalité. À entendre ce que les cardinaux disaient les uns des autres, on eût cru qu'aucun d'eux ne méritait même un vicariat de campagne. Seul, Monseigneur Duèze semblait insensible à l'inconfort, aux intrigues et à la médisance. Depuis 2 ans, il avait tant embrouillé les choses entre ses collègues qu'il n'avait plus besoin de se mêler de rien, et pouvait laisser ses perverses machines tourner toutes seules. Frugal par nature et par habitude, la maigreur de la pitance ne le gênait nullement. Il avait choisi de partager sa cellule avec 2 cardinaux normands ralliés aux Provençaux, Nicolas de Fréauville, ancien confesseur de Philippe le Bel, et Michel Dubec, qui, trop faible pour constituer un parti, ne figurait point parmi les papables. On ne les redoutait pas, et leur installation en compagnie de Duèze ne pouvait pas prendre l'aspect d'une conjuration. D'ailleurs, Duèze voyait peu ses compagnons. À heure fixe, il se promenait dans le cloître du couvent, généralement appuyé au bras de Guccio, qui ne cessait de lui recommander « Monseigneur, ne marchez point si vite. Voyez, j'ai peine à vous suivre. Avec cette jambe roide que je garde de ma chute à Marseille, vous savez bien que vos chances, si je crois ce que j'entends, seront plus fortes à mesure qu'on vous croira plus faible. » « c'est vrai, répondait le cardinal qui s'efforçait alors de courber le col, de fléchir le genou et de discipliner ses 72 ans. Le reste du temps, il lisait ou écrivait. Il avait pu se procurer ce qui lui était le plus nécessaire au monde, des livres, de la chandelle et du papier. Venait-on l'avertir d'une réunion dans le cœur de l'église ? Il feignait de quitter à regret sa stalle et là, écoutant ses collègues s'injurier ou se larder de perfidie, il se contentait de souffler d'une voix à peine audible « Je prie, mes frères, je prie pour que Dieu nous inspire le choix du plus digne. » Ceux qui le connaissaient de longue date le jugeaient bien changé. Il semblait fort adonné aux macérations et offrait à chacun l'exemple de la bienveillance et de la charité. Quand on lui en faisait la remarque, il répondait simplement, accompagnant son murmure d'un geste désabusé « L'approche de la mort, il est grand temps de me préparer. » Il touchait à peine à l'écuelle de ses repas et la faisait porter à l'un ou à l'autre de ses rivaux. Ainsi, Guccio arrivait les bras chargés auprès du camerlingue qui prospérait comme bœuf à l'engrais en disant « Monseigneur Duèze vous fait tenir ceci. Il vous a trouvé maigri ce matin. » Des 96 prisonniers, Guccio était l'un de ceux qui communiquaient le plus aisément avec l'extérieur. Il avait en effet pu établir rapidement une liaison avec l'agent de la banque Ptolemy à Lyon. Par ce relais s'acheminaient non seulement les lettres que Guccio envoyait à son oncle, mais aussi le courrier plus secret que Duèze destinait au régent. À ces lettres-là était épargnée la disgrâce du séjour dans les plats graisseux. Elles passaient à l'intérieur des livres indispensables aux pieuses études du cardinal. Duèze, en fait, n'avait d'autre confident que le jeune Lombard, dont l'astuce le servait chaque jour davantage. Leur sort était étroitement lié, car si l'un voulait sortir pape de ce couvent surchauffé par l'été, l'autre en désirait partir au plus tôt, et puissamment protégé afin de secourir sa belle. Guccio, toutefois, était un peu tranquillisé au sujet de Marie depuis que Ptolemy lui avait écrit qu'il veillait sur elle comme un oncle véritable. Au début de la dernière semaine de juillet, lorsque Duèze vit ses collègues bien là, bien éprouvés par la chaleur et irrémédiablement dressés les uns contre les autres, il décida de leur donner la comédie qu'il méditait et qu'il avait soigneusement mise au point avec Guccio. « Ai-je assez traîné le pied ? Ai-je assez jeûné ? Ma mine est-elle assez mauvaise ? » demanda-t-il à son damoiseau improvisé. « Et mes compères sont-ils assez dégoûtés d'eux-mêmes pour se laisser conduire à une décision de fatigue ?»« Je le crois, monseigneur. Je crois qu'ils sont bien mûrs. »« Alors, il est temps, je crois, mon jeune compagnon, de faire travailler votre langue pour moi. Je vais me coucher et je ne me relèverai plus guère. »
Guccio commença de se répandre parmi les serviteurs des autres cardinaux en disant que monseigneur Duèze était très éprouvé, qu'il donnait des signes de maladie et qu'on devait redouter, vu son grand âge, qu'il ne sortît pas vivant de ce conclave. Le lendemain, Duèze ne parut pas à la réunion quotidienne, et les cardinaux en murmurèrent entre eux, chacun répétant les bruits que Guccio faisait courir. Le jour suivant, le cardinal Orsini, qui venait d'avoir une altercation violente avec les Colonna, rencontra Guccio et lui demanda s'il était bien vrai que Monseigneur Duèze fût en si grande faiblesse.
« Oh oui, Monseigneur, et vous m'envoyez l'âme toute fendue, » répondit Guccio. « Savez-vous que mon bon maître a même cessé de lire ? Autant dire qu'il a peu de chemin à faire maintenant pour cesser de vivre. »
Puis, de cette air d'audace naïve dont il savait jouer à propos, il ajouta
« Si j'étais à votre place, Monseigneur, je sais bien ce que je ferais. J'élirais Monseigneur Duèze. Ainsi vous pourriez sortir enfin de ce conclave et en tenir un autre à votre guise tout aussitôt qu'il sera mort, ce qui, je vous le répète, ne saurait tarder. C'est une chance que dans une semaine vous aurez peut-être perdue. »
Le soir même, Guccio aperçut Napoléon Orsini en conciliabule avec Stefanetti, Alberti de Prato et Guillaume de Longhi, tous Italiens favorables à Duèze. Le lendemain, le même groupe se reforma, comme de lui-même dans le cloître, mais grossi de l'Espagnol Luca de Flisco, demi-frère de Jacques II d'Aragon, et d'Arnaud de Pellagru, le chef du parti gascon.